was sorry to read about that thing in the paper. And you've quit the force. Is it a permanent physical disability?
No. No. It just means that I can't climb stairs that are too steep or go to high places, like the bar at the top of the Mark. But there are plenty of street-level bars in this town.
Would you like a drink now?
No, I don't think so. No, it's a little early in the day for me. Well, I guess that just about covers everything, doesn't it? I never married. I don't see much of the old college gang. I'm a retired detective, and you're in the shipbuilding business. Now, what's in your mind, Gavin?
I asked you to come up here, Scotty, knowing that you'd quit detective work. But I wondered whether you'd go back on the job as a special favor to me. I want you to follow my wife. No, it's not that. We're very happily married.
Well, then...
I'm afraid some harm may come to her.
From whom?
Someone dead. Scotty, do you believe that someone out of the past, someone dead, can enter and take possession of a living being?
No.
Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Dans le film, un numéro un peu spécial puisqu'il inaugure une section particulière qui nous tenait à cœur de faire exister à hors-série. On s'est rendu compte qu'à Dans le film, on parlait de beaucoup de films, on brassait beaucoup de films et que parfois on utilisait le mot chef-d'œuvre sans avoir le temps ni la place de justifier ce terme ou de l'expliquer. D'où une volonté de consacrer, à partir de maintenant et de manière très aléatoire, une émission entière au décryptage d'un film, à sa genèse, à son analyse et à sa postérité. Alors le premier film choisi pour ce numéro a été pour chacun d'entre nous, à hors-série, une évidence absolue, puisqu'il s'agit de Vertigo d'Alfred Hitchcock, un film sorti en 1958. Un film entouré de superlatifs que chacun découvre enveloppé d'une aura très intimidante qui peut-être brouille la vue de ses multiples beautés. Aujourd'hui, donc, nous allons ressasser Vertigo, reparler de Vertigo avec notre invité qu'on reçoit pour la deuxième fois avec grand plaisir. Bonjour Jean-François Roger.
Bonjour.
Alors Jean-François Roger, je vais vous présenter pour ceux qui n'auraient pas vu notre émission donc de novembre 2014 et pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes directeur de la programmation à la Cinémathèque, vous êtes également critique de cinéma dans les pages du Monde, vous avez publié un recueil de vos textes qui s'appelle L'œil qui jouit, titre qui, on le verra, n'est pas tout à fait étranger au film dont on va parler. Et puis, plus récemment, et là, ça intéresse directement notre sujet, L'œil domestique, sur Alfred Hitchcock et la télévision, et où vous tentez de réhabiliter, enfin, où vous réhabilitez un pan oublié de l'œuvre d'Alfred Hitchcock, qui est donc sa série pour la télévision Alfred Hitchcock présente. Alors, vous avez écrit dans ce livre quelques lignes sur Vertigo, puisque ce livre dialogue évidemment avec la filmographie d'Hitchcock. Vous écrivez « Cette filmographie ayant atteint son point d'incandescence avec Vertigo, film limite, encore impensable, et pour son temps, longtemps impensé. » Alors, j'aimerais vous titiller avec une première question. Qu'est-ce qu'un film impensable, selon vous ?
Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vertigo, enfin, Sueur froide, c'est le titre français, mais Vertigo, c'est un film quasiment expérimental. C'est-à-dire qu'on, quand on a une idée un peu arrêtée sur ce qu'était le système hollywoodien, qui est un système industriel, qui produisait du divertissement de masse, on se dit comment ce système a pu produire une œuvre aussi bizarre, aussi expérimentale, et puis aussi finalement décevante pour le spectateur. D'ailleurs, le film va décevoir, ça ne sera pas un succès commercial. Et comment est-ce qu'un film d'une telle folie, parce qu'il y a de la folie dans le film, par rapport, je dirais, aux critères, à la convention hollywoodienne, ce film est véritablement impensable par le système, quoi. Et
aberrant,
pourtant, il a
quoi.
Été fait. Aberrant, si on veut. Et alors, quand je dis impensé, c'est que quand il est sorti, peu de gens l'ont compris. C'est-à-dire que ça, c'est aussi, voilà, peu de gens l'ont compris. Le public ne l'a pas compris. La plupart des critiques sont restés sceptiques devant cet objet, qui ne correspondait pas, sans doute, au canon du divertissement hollywoodien, voire du divertissement hitchcockien, puisqu'Hitchcock avait enchaîné une série de succès avant Vertigo, même si le film d'avant n'était pas un succès. En tout cas, Fenêtre sur cour, La main au collet, c'était vraiment des succès.
Donc c'est Le fou coupable, c'est ça, juste avant Vertigo.
Il fait Le fou coupable avant Vertigo, qui est un échec, mais qui est déjà déjà un film où Hitchcock expérimente quelque chose, et là, c'est une autre forme d'expérimentation qui va surprendre et décevoir le public. Le seul film d'Hitchcock où finalement il va... Parce qu'il va continuer à faire des expériences, et quand il fait Psychose, c'est une expérience, et là, ça va être un énorme succès.
Et donc, peut-être une question plus personnelle. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu Vertigo ?
Oui, bien sûr, parce que c'est... En fait, Vertigo est un film... qui a longtemps été désiré par les cinéphiles. Parce qu'en fait, Vertigo, moi j'ai découvert Vertigo quand il est sorti, ressorti en salle, avec une série de films d'Hitchcock au milieu des années 80.
Voilà. Donc déception ou...
Non, pas du tout déception, évidemment. Fascination, énorme fascination pour le film. En plus, je m'étais quand même débrouillé pour ne rien savoir de l'intrigue.
Ah oui.
Tout en lisant comme ça des choses sur le film. Et quand on lit l'ouvrage de Jean Douché, par exemple, il voit une métaphore ésotérique, etc. Mais enfin, il ne rentre pas dans le détail du scénario et c'est très bien. Donc je n'avais pas d'idée exacte du récit policier de la Sécamène. Donc je le découvre vraiment avec ce retournement de situation qui arrive aux deux tiers du film où on nous livre la solution de l'énigme, etc. Et donc évidemment, ça me plaît, le film me plaît, mais je suis sûr. Alors bon, tout ça est un peu lointain maintenant. Je suis sûr qu'il faut plusieurs visions pour comprendre Vertigo. Claude Chabrol disait, il y a les films pairs et les films impairs. Et il disait, voilà, les films pairs, c'est des films qu'on ne peut pas comprendre si on ne les voit pas deux fois. Il faut absolument les voir deux fois. Et il dit, les films impairs, une fois suffit. Et il dit, il faut faire des films impairs parce que les gens ne retournent pas voir des films, rarement au cinéma, ils retournent rarement voir des films au cinéma. Et en fait, c'est les films impairs qui sont des succès, alors que les films pairs, s'il faut aller voir deuxième fois le film, ce n'est pas dans la poche, quoi. Vertigo est un film pair. C'est-à-dire que, on en saisit la beauté lorsqu'on a compris, une fois qu'on a compris le récit. Criminel,
oui,
le suspense, le retournement de situation, le mystère est dévoilé, etc. Et là, on revoit le film, et là, on se rend compte que ce qu'on avait vu, qu'on avait été trompé. C'est-à-dire que c'est un film qui nous trompe du début à la fin. Et donc, c'est évidemment avec la conscience d'avoir été trompé qu'il faut revoir Vertigo, ne serait-ce que pour voir comment on a été trompé par Hitchcock, évidemment.
Mais pourquoi on est trompé ?
On est trompé parce que... parce qu'on est comme James Stewart dans le film, on est comme Scotty, c'est-à-dire que nous on croit que c'est une histoire d'amour romantique, et en fait c'est une minable machination criminelle, et absurde par ailleurs, parce que le film a beaucoup été attaqué sur sa vraisemblance et sa crédibilité, ce qui vraiment alors Hitchcock disait, mais ces messieurs les vraisemblants, avec beaucoup de mépris, il traitait avec beaucoup de mépris ceux qui cherchaient de la vraisemblance au cinéma. C'est vrai que c'est un film où il y a beaucoup de coups de force de scénario, pas grave, c'est pas très très grave, c'est évidemment autre chose, mais en tout cas on est trompé par le jeu des acteurs, on est trompé par la mise en scène, on est trompé par l'usage de la musique, on est trompé par le sentiment monumental un peu du film. Ça, c'est une chose intéressante à faire. Hitchcock fait ce film au milieu des années 50, à peu près au même moment où John Ford fait La Prisonnière du désert. C'est-à-dire que ce sont des cinéastes classiques parvenus à maturité qui font des films avec certainement la certitude de faire une œuvre d'art. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose de très... Et alors, faire une œuvre d'art, ça peut être un peu de mauvais goût. Il y a du mauvais goût dans Vertigo, parce qu'il y a une volonté d'art.
Donc c'est très conscient d'un seul coup ?
Je pense que c'est très conscient.
C'est deux films expressionnistes, en plus ?
C'est deux films très marqués par l'expressionnisme.
Ouais.
C'est deux films très marqués...
C'est quoi,
oui.
Est-ce que c'est le début du cinéma moderne ? Quelque chose de modernité qui...
En fait, en tout cas, c'est plus du cinéma classique. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait, qu'il faudrait raisonner. C'est-à-dire, je sais pas si c'est du cinéma moderne ou pas. Je suis pas sûr d'ailleurs, mais en tout cas, c'est plus du cinéma classique où il y a de la conscience de soi, mais il n'y a pas que ça. Oui, mais je pense qu'Hitchcock a toujours eu un surmoi d'auteur. Hitchcock a toujours été conscient de ce qu'il faisait. Mais il y a cette dimension-là, en tout cas, la certitude de faire une œuvre. Bigger than life, quoi, plus grande que les autres. L'idée de faire une œuvre tout d'un coup monumentale, pas monumentale seulement par les moyens, il y a quelque chose de, mais qui dépasserait les conventions du système hollywoodien ou des genres ou de tout ce qu'on veut, ça n'a pas marché, ça n'a pas été perçu, voilà, ça n'a pas été perçu à leur époque. C'est ça l'impensé de Vertigo. Mmh. C'est personne n'a pu penser au moment où c'était fait que ces films étaient hors normes, en fait, étaient hors normes.
Et maintenant, c'est marrant, il y a à la fois c'est un impensé, et maintenant, peut-être que c'est trop pensé. Vertigo a été trop pensé, c'est de la matière pour tout le monde, pour les sociologues, pour les psychanalystes, pour les critiques de cinéma, pour les critiques littéraires, pour les critiques esthétiques en tout genre. Donc, c'est une façon de compenser presque cet impensé, c'est que maintenant, on n'en finit plus de commenter Vertigo. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à en dire?
Ah ben ça c'est la beauté, c'est la beauté des films d'Hitchcock et c'est peut-être la définition de ce qu'est une œuvre d'art. Oui. C'est-à-dire que c'est une œuvre d'art, c'est quelque chose qui est totalement ouvert. Et là on peut dire que Vertigo c'est un film qui est effectivement totalement ouvert à toutes les interprétations. On n'est même pas sûr de ce qu'on voit. Sans doute on va en reparler parce que oui. On n'est même pas sûr de ce qu'on voit. Mais on peut imaginer différentes interprétations de l'histoire de ce qu'on voit. Mais en tout cas ça c'est sûr et c'est la force d'Hitchcock. Alors avec Hitchcock c'est encore plus fort que les autres, parce que Hitchcock, je crois que c'est le philosophe Slavoj Žižek qui disait, c'est le sujet supposé savoir. C'est-à-dire que quand on voit un film d'Hitchcock et qu'on voit quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est nous qui avons tort, parce que lui, il sait. Alors évidemment, c'est un sujet fantasmatique, mais il y a dans le cinéma d'Hitchcock, à un moment donné, et ça se vérifie avec Vertigo, avec Sueur froide, avec La mort aux trousses et avec Psychose, surtout Psychose, qui a l'air d'être un film plus petit, plus minimaliste, c'est qu'il y a du sens tout le temps. Dans le plan, dans le son, dans les sons, dans les jeux d'acteurs, dans le moindre bout de dialogue. C'est-à-dire que le moindre bout de dialogue ne signifie pas, n'a pas uniquement une valeur fonctionnelle. C'est-à-dire que tout d'un coup, chez Hitchcock, on ne peut plus dire qu'il y a des moments qui sont uniquement fonctionnels ou transitoires, qui sont là juste pour faire avancer l'intrigue. Non, tout est une ouverture vers autre chose, vers effectivement une réflexion de type psychologique, psychanalytique, philosophique, etc. Ouais. Tout est signifiant,
même
à perte de
détail,
vue. À perte de vue, voilà. C'est tout fait sens. Tout fait sens et renvoie à quelque chose qui est ailleurs dans le film. Sans parler de quelque chose qui serait ailleurs dans les autres films d'Hitchcock, mais qui est ailleurs dans le film. Hitchcock avait en tête le film comme une séquence par séquence. Il avait des idées de séquence. Hein? Donc, ce n'était pas l'histoire, l'idée de faire un récit qui se tiendrait, etc., qui l'intéressait. C'était l'idée de réussir de réussir toutes les séquences du film et de les penser de façon autonome.
Alors, Dominique Payne, dans un texte sur justement les tableaux, enfin, la présence des tableaux dans Vertigo, parle justement de ce film comme d'une sorte d'exposition, c'est-à-dire que les scènes cohabitent à la façon des tableaux dans une exposition, qui serait comme ça autonome, mais en même temps il y a une sorte de continuité qui n'est en fait créée que par la contiguïté des tableaux les uns à côté des autres. Ouais. Mais chaque scène a sa propre temporalité, et même parfois on a l'impression que le film va se terminer, et il se poursuit, il se recommence tout le temps, il y a des effets de rupture comme ça, incessants, à chaque scène. Ouais, en tout cas, ça se sent quand on voit Vertigo, que toutes les scènes sont un écosystème à part entière.
Mais cette idée de tableau, en plus, elle est même dans les plans.
Ouais, bien sûr.
Bon, on sait que c'est l'histoire d'un spectateur, en fait. C'est l'histoire d'un spectateur qui est trompé, Vertigo. Hein. Donc c'est l'histoire de James Stewart. Qui suit cette femme, la femme d'un de ses amis, parce que celui-ci pense qu'elle sombre dans la folie. Et donc, effectivement, À chaque fois qu'elle a ses premières apparitions, lui, il la voit à travers un cadre, c'est-à-dire qu'elle est déjà une image. Mmh. Elle est une image, et cette idée de tableau, de séquences qui sont comme des tableaux qui sont continus, à l'intérieur même des séquences, il y a des tableaux. Il y a des tableaux qui sont voilà, la première apparition de Kim Novak, donc, qui joue le rôle de la femme suivie par James Stewart, Scotty. Elle sort du restaurant, et là, il la voit, elle est dans l'embrasure de la porte, et il la revoit quand elle est dans cet hôtel dont elle disparaît mystérieusement. Il faudra qu'on en parle, la seule séquence irrationnelle du film, et on la voit.
Alors, peut-être pour le choix des acteurs, qui je pense est très intéressant pour comprendre le film. Donc, à la base de Kim Novak, ça devait être Vera Miles, une actrice que j'aime beaucoup. Alors là, je cite Jean-Pierre Eskenazi, donc qui a consacré un ouvrage, un gros ouvrage sur Hitchcock. Sur Vertigo plutôt. Donc il écrit, au début, Hitchcock voulait Vera Miles. Hitchcock découvre dans une émission de télévision une jeune comédienne dont le nom est Vera Miles, qu'il prend immédiatement sous contrat. Il répète qu'elle est la nouvelle Grace Kelly et prend soin d'organiser minutieusement son existence. Ainsi, il demande qu'on lui dessine une garde-robe complète pour la vie de tous les jours et l'oblige par contrat à porter les vêtements dessinés pour elle. Il l'a fait tourner dans plusieurs des courts-métrages réalisés pour la série Alfred Hitchcock présente. Donc là, on a presque une scène de Vertigo résumé avec le rapport de Hitchcock à Vera Miles. D'ailleurs, ça va se finir ça va se finir très mal puisqu'elle va tomber enceinte, refuser finalement le rôle, et Hitchcock va avoir des mots très durs, pour elle. Et est-ce qu'il va se remettre du refus de Vera Miles?
C'est-à-dire que, alors effectivement, il a tout se devait se passer pour que Vera Miles ait le rôle dans Vertigo. Effectivement, il la repère dans une publicité, je crois. Il lui fait jouer pour la première fois. C'est le premier épisode diffusé d'Alfred Hitchcock présente. C'est lui qui le réalise et c'est avec elle. C'est lui en français, Revenge, voilà, film très 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 curieux et très dur. Et elle tourne, elle fait la femme de Henry Fonda dans Le Faux Coupable.
Où elle devient folle d'ailleurs.
Et où elle devient folle. Et on sait que Hitchcock c'est beaucoup intéressé à elle, quoi, à son jeu, il la couvait, quoi, il y avait vraiment quelque chose comme ça. Et puis tout était prêt pour qu'elle fasse le film suivant, qui était Vertigo. Et là, effectivement, elle apprend à la production qu'elle est enceinte, en fait. Elle était mariée à un acteur américain qui s'appelle Gordon Scott, qui jouait Tarzan, voilà. Et Hitchcock gêné pour montrer un peu son mépris pour tout ça. Et il s'est fâché, je pense qu'il a été affecté. Je pense qu'il a, bon, après, on sait qu'il avait des relations avec ses comédiennes, certaines de ces comédiennes qui étaient très obsessionnelles, très troubles, très fétichisées, enfin très fétichistes, etc.
Il jouait à la poupée avec ces comédiennes.
Absolument.
Et Vertigo, c'est peut-être le film qui documente le plus son rapport aux comédiennes.
Quand James Stewart emmène Kim Novak pour qu'elle remette son tailleur, le tailleur gris de Madeleine, enfin, etc. Oui, c'est Hitchcock qui fait ça. Enfin, c'est presque un documentaire sur Hitchcock et ses comédiennes et ses actrices, quoi.
It's not it. Nothing like it.
But you said gray, sir.
Now, look, I just want an ordinary, simple gray suit.
But I like that one, Scotty.
No, it's not right.
Gentleman seems to know what he wants. All right, we'll find it. Scotty, what are you doing?
I'm trying to buy you a suit.
I love the second one she wore. And this one, it's beautiful.
No, they're none of them right.
Oh, I think I know the suit you mean. We had it some time ago. Let me go and see. We may still have that model.
Thank you.
You're looking for the suit that she wore for me. You want me to be dressed like her.
Judy, I just want you to look nice. I know the kind of a suit that'll look well on you.
No, I won't do it.
Donc, il prend Kim Novak. Ouais. Il prend Kim Novak sur la proposition de son agent Lou Wasserman. Et Kim Novak, au début, avait des exigences sur sa garde-robe. Elle ne voulait pas de tailleur gris. Alors que lui. Hein. Bon, et puis finalement, ça s'est plutôt bien passé. Quoi.
Il la transforme.
En fait, ce qui est beau, c'est qu'elle a à la fois effectivement une certaine vulgarité chez elle, mais une animalité en tout cas. Elle est assez sensuelle quand même. Ouais. C'est une vulgarité un peu sensuelle quand même. Et en même temps.
Elle est plus proche de Judy. Je pense qu'Hitchcock la voit plutôt en Judy, c'est-à-dire cette. cette apparition très vulgaire, la première fois qu'on
voilà,
peut apparaître Judy.
Voilà, c'est
voilà,
ça.
C'est Kinovac, là. C'est une actrice...
Et il va la transformer en objet à la fois de désir, en même temps en objet hors d'atteinte. Enfin,
sûr,
elle est
froid.
Plus, tout d'un coup, elle perd la sens, il n'y a plus l'animalité, la sensualité, le caractère concret. Et évidemment, c'est tout ce que fait James Stewart dans le film, c'est pour ne pas coucher avec elle, en fait. C'est pour la mettre à distance. C'est vrai que la pertinence du choix de Kim Novak, on s'en rend compte parce qu'elle est fait, c'est constamment un personnage qui est entre une image et sa réalité concrète, quoi. Enfin, c'est ça. Donc, entre une image façonnée par un autre et puis sa réalité concrète, qui est très concrète parce qu'elle est très animale. Elle a d'ailleurs demandé à tourner sans soutien-gorge et effectivement, elle n'a pas de soutien-gorge. Donc.
J'avais pas remarqué. Ah, si. Oui, elle est entre l'animal et quelque chose de très glacé.
De très glacé et hors d'atteinte, en fait.
Et donc, le choix de James Stewart...
Alors, il faut savoir que Hitchcock a, à un moment donné, évidemment, été déçu par l'échec du film et a un peu mis, a un peu invoqué comme raison de l'échec du film le fait que le personnage était trop vieux. C'est-à-dire que l'acteur était trop vieux pour jouer le personnage. C'est-à-dire que James Stewart, pour Hitchcock, était finalement un peu trop vieux pour incarner ce personnage d'amoureux romantique. Bon, je ne sais pas si c'est... C'est sans doute pas faux. Sans doute pas vous, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas très grave parce que James Stewart va insuffler dans le film quelque chose qui est très très fort, quoi.
Ouais.
Et si, ça nous permet peut-être d'aborder aussi la question du masculin et du féminin, en fait, parce
bien
que
sûr.
Là, on est au cœur de la chose, c'est-à-dire
oui,
que il a longtemps été dit plutôt, le féminisme un peu bas du front disait que Vertigo était un film sexiste, qu'en gros, ça montrait, c'était un film qui montrait le regard masculin, qui était un film fait pour les hommes, que le regard masculin façonnait.
Comment on répond à ça,
alors après, d'autres féministes un peu plus subtiles et un peu plus fines, ou fins, parce que on dit, mais regardons le personnage de James Stewart, il y a de la féminité en lui, il y a même cette féminité un peu triviale, on apprend qu'il porte un corset quand même, dans la première scène, parce qu'il s'est blessé, il porte un corset quand il discute avec Midge, son amie qui est amoureuse de lui. Bon, on apprend, il n'est pas dans l'action, c'est-à-dire qu'il ne fait rien. Il suit, il est spectateur, il est le spectateur d'un spectacle monté par un autre.
Donc ça c'est fait. Alors j'aimerais juste citer Eskenazi sur cette veine féminine, bon, qui est assez, qui aussi peut être problématique parce que ça assigne au féminin une certaine définition. Donc
c'est ça.
Il parle notamment de Tania Modelski, qui a écrit donc. Les femmes qui en savaient trop, donc des lectures, une lecture féministe, des films, de quelques films d'Hitchcock, un bon livre publié à l'Harmattan, traduit à l'Harmattan. Et donc il écrit, si on accepte, comme le propose Paula Marantz-Cohen, de penser que le féminin signifie en partie, dans le contexte du cinéma américain depuis les années 40, la disponibilité pour penser, pour éprouver des sentiments, pour réfléchir, au deux sens du terme, une narration, Scotty apparaît en effet féminisé. En démissionnant de la police, il a renoncé à animer une histoire, mais il peut en être la matière. Donc ce retrait serait quelque chose.
Oui, mais alors là, c'est terrible parce que c'est des définitions essentialistes, quoi.
Ça,
c'est pas possible.
Le féminin, c'est capacité à réfléchir.
Comment on peut définir les personnages incarnés par James Stewart. D'ailleurs, les films des années 50 avec lui, ils sont passionnants. Il fait, avant Vertigo, il fait des westerns avec Anthony Mann. Et là, il est plus actif, c'est un cow-boy, etc. Et en même temps, comme chez Anthony Mann, comme chez Vertigo, il incarne quelque chose qui serait une hystérie masculine. C'est un névrosé. Alors là, je ne sais pas si vous parlez d'entrée du cinéma dans la modernité, mais en tout cas, on commence à rencontrer des névrosés modernes dans le cinéma hollywoodien. Et James Stewart, dans les années 50, il va être ce personnage émotif. Il pleure dans les films d'Anthony Mann. Il est jusqu'aux larmes, quoi. Émotif. Alors, dire qu'il est féminisé, c'est encore une fois, c'est essentialiser les choses et les coincer. Non, c'est un hystérique masculin. C'est un homme qui est plongé dans une très profonde névrose qui va le perdre.
Donc j'aimerais qu'on revienne sur la séquence, sur quelques séquences clés de Vertigo. Donc on va commencer avec la séquence de la première rencontre qui est en fait qui détermine en fait ce que sera le rapport entre Scotty et Madeleine, c'est-à-dire qu'en fait ils ne se rencontreraient jamais, même dans l'amour.
Thank you.
Donc, avant de commencer à analyser l'extrait, une toute petite phrase de Jean Douchet, donc, qui parle de ce profil. Il dit « Sa fascinante beauté se détache sur le fond cramoisi du restaurant qui, telle une braise que l'on attise, vire insensiblement au rouge vif avant de retourner à sa couleur initiale. » Donc on verra que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans Vertigo, cette capacité à faire travailler insensiblement, parfois sans qu'on s'en rende compte, la lumière.
Bien sûr.
Et là, on voit qu'il y a un changement de lumière qui est très... qui est très imperceptible, mais qui fait que ça devient d'un seul coup une vraie image, quoi. Et que tout se transforme sous l'œil de Stewart. Et en même temps, Stewart, c'est ça qui est assez incroyable, ne voit pas Madeleine.
Oui, c'est ça, cette scène, elle est étonnante. Alors, et quand Jean Douchet écrit ça dans son livre, c'est un très beau livre sur Hitchcock, sauf quand on lit le détail, il se trompe. Parce qu'il pense qu'en fait, c'est un plan subjectif de James Stewart. Que le profil, c'est lui qui, tout d'un coup, va figer l'objet de son... C'est celle qui va devenir l'objet de son désir. Il va la figer et il va fantasmer sur elle. Et d'une certaine façon, la couleur rouge, le halo rouge qu'il y a autour d'elle, c'est évidemment le désir de James Stewart qui commence à cristalliser, etc. Sauf que, effectivement, c'est pas un plan subjectif de James Stewart. On voit bien qu'il ne la regarde pas au moment où il y a ce plan de profil. Il la voit avancer vers lui à travers le cadre de la porte. Donc, en fait, il la voit dans une. Il voit ce qu'on saura après être une représentation. Hein, c'est tout est faux. Le vrai metteur en scène de tout ça, c'est le mari. Enfin, c'est Elster. Donc, c'est le mari, celui qui dîne avec Madeleine, Kim Novak, et qui l'a fait passer pour sa femme. Et il a tout mis en scène. Mais là, James Stewart la voit à travers le cadre. Et puis, quand elle passe à côté de lui, il ne la regarde pas parce qu'il s'en. Alors, d'un point de vue purement factuel, celui du récit policier, c'est pour pas être repéré, sans doute, comme étant quelqu'un qui la suit. Mais pourquoi est-ce qu'Hitchcock prend à ce moment-là la peine non seulement d'insister sur ce profil, de le figer et de faire rougeoyer la lumière autour du visage de Kim Novak, d'en faire tout d'un coup un portrait dans le film, un portrait de profil dans le film. Alors ça, évidemment, il le fait pour le spectateur. C'est-à-dire, d'abord, ce qu'il dit, ce que peut dire cette scène-là, c'est que James Stewart ne voit rien. Il ne la voit pas, comme il ne verra rien, en fait. De tout ce qu'on lui a.
Et pourquoi de profil
il va regarder. C'est après le profil, c'est la médaille. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va s'inscrire, il faut que ça s'inscrive, mais ça va s'inscrire pour le spectateur. La dupe là, c'est pas James Stewart, c'est le spectateur.
Bien sûr.
C'est lui, tout d'un coup, on va lui donner l'impression qu'il va rentrer dans une histoire romantique. Avec, encore une fois, ce rougeoiement qui est très expressionniste. Hein. On est dans une forme d'expressionnisme en couleur.
J'aimerais, en passant, juste noter que donc, les costumes d'Edith Head sont incroyables. Bien et le film ne serait rien sans les costumes d'Edith Head, qui a fait les costumes de bon nombre de films de Hitchcock et qui font partie de la matière cinématographique du film. Donc oui, ce rouge et cette fausse rencontre. Quoi.
Ben, c'est une fausse rencontre et surtout, là... c'est Hitchcock s'adresse. Enfin, on peut dire c'est Eisenstein qui disait le cinéma, c'est labourer l'inconscient du spectateur. Et donc là, Hitchcock manipule le spectateur. Là, il le met en situation de s'identifier d'autant plus à James Stewart qui va croire une histoire d'amour et que finalement celle que va aimer James Stewart Scotty aura été désignée comme un objet de désir. Et en même temps, déjà un peu un objet de désir, mais en même temps un profil de médaille, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu gravé, quoi, quelque chose qui peut.
Un peu dont on va se rendre compte
qu'il est hors d'atteinte. Quoi.
Et mais, dont une autre face est cachée, en fait, c'est ça. Mais justement, sur ce profil, donc, c'est quelque chose qui va revenir pendant le film plusieurs fois. Mm-hmm. Et c'est là qu'il va d'ailleurs reconnaître Madeleine en Judy, c'est-à-dire que la première fois que Judy apparaît aux yeux de Stewart, elle est de profil. Et donc ça veut dire que Stewart a déjà en tête le profil de Madeleine. Donc ça veut dire qu'en fait, Hitchcock nous fait croire que Stewart a en mémoire ce profil-là. Puisque c'est par là qu'il va reconnaître Madeleine en Judy.
C'est
une image mentale déjà.
C'est une image tout simplement. Ouais. Parce que ce que recherche James Stewart, c'est une image, c'est pas la réalité. Il désire pas le réel. Le réel, c'est sa copine, c'est Midge.
What was this desperate urge to see me?
All I said in my note was, where are you? Doesn't sound very desperate to me.
I detected a little undercurrent.
I just thought that if I gave you a drink and fed you some dinner, you'd be so grateful you'd take me to a movie.
Oh, that's fair enough. What do we talk about at dinner?
Oh, this and that.
What I've been doing?
Well, if you want to. Naturally, we won't talk about anything you don't want to talk about.
Naturally.
What have you been doing?
Wandering. What have you been doing?
Hi, Kinnear.
Oh, I've been having a wonderful time. I'm going back to my first love, painting.
Well, good for you. I always said you were wasting your time in the underwear department.
Well, it's a living. But I'm really excited about this.
What is it? Still life?
No, no, not exactly. You want to see?
Yeah.
Matter of fact, I thought I might give it to you.
Oh.
Johnny.
No, it's not funny, Mitch.
Johnny?
No.
Johnny, I just thought...
No, let's make that movie some other night.
Ce sont des femmes qui sont du côté du réel. Et Midge, elle est du côté du réel. Il y a une certaine sensualité quand même. Elle parle de soutien-gorge. Elle dit à l'autre, t'es un grand garçon quand même, etc. Enfin,
mais elle est maternelle.
Mais elle est, voilà, il y a la dimension maternelle. Voilà.
Alors, moi, en parlant de Vertigo, quand je parle de Vertigo, j'ai l'impression que, une fois qu'on parle du film, on le décrypte et on oublie toujours Midge. Vraiment, on oublie toujours, oui. Sans comprendre qu'elle est, elle est fondamentale dans le film pour comprendre en creux. En fait, c'est juste le négatif, vraiment tout le contraire de Kim Novak, mais qu'elle est tout aussi importante, qu'elle dit énormément du film, justement, cette part de réalité que Stewart va cesser de rejeter, c'est elle. Mmh. Ils se sont d'anciens fiancés, elle est encore amoureuse de lui, elle a ce regard incroyable dans la première scène où elle regarde par-dessus ses lunettes Stewart qui lui rappelle qu'ils ont été fiancés. Mmh. Elle va faire cette scène incroyable où elle dessine son portrait. Et pour moi, c'est vraiment la clé de Vertigo, c'est Midge.
Oui, parce que c'est tout ce que le personnage refuse, c'est le réel. Voilà, le réel n'a qu'une qualité, c'est qu'il est à portée de main. Et voilà, Midge, elle est là, elle est à portée de main, elle est à portée de tout est possible avec elle, et il ne le désire absolument pas. Ce que désire James Stewart, c'est une image. Il est même pas, on peut penser d'ailleurs, enfin on est à peu près sûr qu'il est impuissant. C'est-à-dire que lorsqu'il retrouve Judy, lorsqu'il rencontre Judy sans savoir que c'est en fait la même femme qui a incarné Madeleine, lorsqu'il pourrait très facilement coucher avec, et on voit très bien qu'il ne couche pas avec. C'est-à-dire, pourtant, c'est plutôt une fille facile, c'est plutôt une fille avec laquelle, enfin, cette éventualité est assez envisageable. Eh bien, il ne veut pas coucher avec, il la fétichise, mais il veut se tenir à distance du sexe, mais le sexe comme faisant partie de la réalité. Mmh. Voilà. On peut dire, au sens un peu freudien, il fabrique des objets partiels pour éviter la sexualité. Voilà. Et l'objet partiel, c'est l'image de la Madeleine d'avant, etc., façonnée, transformée, mais c'est une image.
Voilà, on est en plein dans l'œil qui jouit, quoi. Mais bon, alors justement, peut-être que je sais pas si c'est pertinent d'en parler tout de suite, mais il y a eu une fin alternative de Vertigo. Mm-hmm. Enfin, parlons de la fin au milieu, mais qu'on a déjà montré à hors série dans l'émission avec Bertrand Bonello, présenté par Jérôme Bonsiolic. Mm-hmm. Et donc, c'est une fin très très bizarre qui rend peut-être aussi toute sa place à Mitch. C'est pour ça que j'en parle tout de suite.
Parce qu'elle revient dans la dernière scène.
Oui, c'est ça. Elle revient dans la dernière scène. Et alors, ça c'est la fin que voulait Hitchcock ou pas? D'accord.
En fait, il faut savoir qu'Hitchcock a tourné beaucoup plus que ce qu'on voit dans Vertigo. Il a tourné, alors il faudra qu'on en parle, parce qu'il y a des choses très très importantes qu'il a enlevées et qui font que le film ressemble à ce qu'il ressemble et qui ne ressemble pas du tout à un film policier traditionnel.
D'accord.
En tout cas, il tourne cette séquence. Cette séquence, elle avait une fonction essentielle à Hollywood, c'est qu'on entend un poste de radio qui nous dit que les coupables ont été arrêtés.
Oui, c'est ça. Mais ça redevient,
et c'était la morale. Voilà, et là, la version qui reste, qui est beaucoup plus belle, en fait, c'est qu'on s'en fiche. C'est pas la question de savoir si les coupables sont arrêtés ou non. C'est pas le sujet du film. Mais là, il y avait cette... Mais comme Hitchcock est très fort, à la fois, il fait une scène où on apprend par le son que les coupables sont arrêtés, donc la morale est sauve, et en même temps, c'est une scène totalement désespérée, un retour au réel, mais un réel je dirais, pré-antonionien, quoi. L'incommunicabilité, la fenêtre ouverte sur la ville la nuit, et ils ne disent pas un mot. Il n'y a pas, quand on parle d'incommunicabilité, là pour le coup, c'est traduit par le fait qu'ils ne se parlent pas. Scotty Rand, ils ne parlent pas. Donc c'est à la fois une belle scène et en même temps, Hitchcock a eu raison de l'enlever parce que je trouve que le dernier plan du film, lui, les bras écartés, regardant le vide, c'est-à-dire guéri, et en même temps, tout est mort, quoi. Mmh. Ça, c'est quand même plus fort, quoi.
Et alors, il y a une piste qui m'a frappée. Enfin, en revoyant Vertigo, je me suis dit, Vertigo, c'est un film expressionniste. C'est quelque chose qui ne m'avait pas frappée jusque-là. Hitchcock a été vraiment formé par des cinéastes allemands. Enfin, donc, c'est très important pour comprendre sa filmographie et son style. Et donc, Eskenazi, dans son livre sur Vertigo, parle de l'expressionniste comme étant... un film expressionniste, c'est un film qui filme depuis le point de vue des décors. Mmh. C'est assez abstrait, mais on comprend bien ce que ça veut dire. En tout cas, c'est que, on voit dans Vertigo que les décors sont très impressionnants. Il y a la scène dans la forêt qui est aussi une des scènes un peu oubliées du film, qui est incroyable. Enfin, on a vraiment l'impression là d'être dans une peinture. Mmh. Et puis il y a ce petit fragment que vous m'avez signalé dans une librairie. Je me souviens pas avoir vu la lumière se baisser. En même temps, j'avais l'impression que je l'avais déjà vu.
C'est très bizarre. Ouais.
Donc on va le regarder, on va voir à quel point, dans cette optique expressionniste, comment la lumière, au même titre que le décor rougeoyant gris sous le profil de Madeleine, la lumière peut exprimer quelque chose.
I cannot tell you exactly how much time passed. Or how much happiness there was. But then he threw her away. He had no other children. His wife had no children. So he kept the child and threw her away. You know, men could do that in those days. They had the power and the freedom. And she became the sad Carlotta, alone in the great house. Walking the streets alone, her clothes becoming old and patched and dirty. And the mad Carlotta, stopping people in the street to ask, where is my child? Have you seen my child?
Poor thing.
And she died.
She died.
How?
By her own hand. There are many such stories.
Well, thank you very much.
You are welcome.
Appreciate it. Goodbye. Goodbye.
Hey, wait a minute. Goodbye, Pop. Goodbye. Thanks a lot.
Alors, peut-être pour revenir sur l'expressionnisme en fait du film, hein, c'est la définition du monde. Du cinéma expressionniste ou de l'expressionnisme au cinéma, c'est effectivement le point de vue du décor, mais en tant que le décor fait partie d'un monde psychique. C'est l'invasion du monde réel par le monde psychique, le monde psychique, celui des personnages, etc. Donc la lumière, les changements de lumière, les changements de couleurs.
Mais pensez à la comédie musicale.
L'irréalisme. Oui, peut-être.
Vous voyez ce que je veux dire.
Enfin, même l'irréalisme.
Et juste une citation qui concerne toujours la lumière du film. J'ai choisi de faire habiter Judy dans l'Empire Hotel à Post Street parce qu'il y a sur la façade de cet hôtel une enseigne au néon vert qui clignote constamment. Cela m'a permis de provoquer sans artifice, enfin ça j'en doute, hein, le même effet de mystère sur la fille lorsqu'elle sort de la salle de bain, éclairée au néon vert. Elle revient vraiment d'entre les morts. Donc là, pareil, j'imagine que Hitchcock a rajouté de la lumière verte, mais il y a cette idée que la lumière va exprimer quelque chose. Donc là, dans cette scène, enfin, allez-y, commentez-la, puisque c'est vous qui me l'avez...
Non, mais là, on apprend à la fois l'histoire de Carlotta, donc, et l'ancêtre à laquelle s'identifie Madeleine dans sa folie. Mais on sait que tout ça est faux, mais ça, on ne le sait pas encore. Et donc là aussi, cette scène, d'abord, elle fait partie de la mise en condition par Hitchcock, du spectateur, qu'il va plonger dans une histoire de plus en plus dramatique, tragique, qui vient du passé. Très belle histoire de femme qui a été séduite, archaïque.
Vertigo est vraiment travaillé par un truc archaïque, comme La Prisonnière du désert, d'ailleurs. Il y a un truc d'archaïsme...
Un monde originaire, en fait.
Oui, c'est ça, qui
ressurgit. Un monde originaire qui ressurgit. Et au fur et à mesure, il raconte cette histoire, la nuit tombe. La nuit tombe. Et on est dans, on peut dire que le film, les ténèbres s'abattent sur le film. Cette scène, elle est cruciale. C'est les ténèbres fondent comme ça sur le film. Il y a un enténèbrement du film.
On peut ne pas voir, par
exemple. Après, on va passer de nouveau à la lumière du jour et tout. Mais cette scène-là, elle va rester dans notre esprit, même si on ne la voit pas. Effectivement, on peut ne pas la remarquer. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que la première fois que j'ai vu le film, j'ai remarqué cette situation, ou en tout cas, j'y ai prêté attention. Ouais. Parce que quand on voit à la fin de l'extrait, ils sont dans la rue et le libraire allume la lumière, donc la nuit est tombée. On le voit derrière la vitrine. Donc
ça veut dire
voilà.
Que si
et en fait, voilà le type exact, le type d'exemple, le type de détail, l'exemple de détail dont on se dit ça n'a sans doute aucune importance et en fait si. Ça c'est Hitchcock, c'est tout a du sens chez lui. Et donc là, cet enténèbrement, évidemment, c'est celui de cette histoire qui va, on va plonger dans les ténèbres. Alors, il y a eu plusieurs interprétations. Il y a une interprétation par Jean Douché notamment qui est, c'est l'histoire de la chute en fait. Hein, c'est la chute. Mm. C'est un récit mythologique ou un récit de chute. Et de chute dans les ténèbres quoi la chute de la quête de la connaissance et la chute voilà c'est une vision un peu ésotérique hein, moi je suis pas gnostique enfin il faut moi je suis pas du tout un spécialiste de ça mais en tout cas c'est une interprétation très 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 audacieuse mais ça on peut avec Vertigo faire des centaines d'interprétations c'est ça la beauté du film et ça marche je veux dire, voilà parce qu'après tout il n'y a pas de délire d'interprétation puisque toute interprétation est un délire donc ça marche très très bien avec Vertigo qui est un film totalement ouvert et en tout cas cette scène là elle est de toute façon l'expressionnisme là s'inscrit dans le film par cet enténèbrement du plan et de l'histoire quoi en fait.
Et donc peut-être une autre séquence, celle de... à moins que... Est-ce qu'il y a d'autres séquences comme ça qu'on voit sans voir comme, en voyant le film, vous êtes dit...
Il y a une séquence qui est très bizarre, qui est la seule séquence irrationnelle. Parce qu'en fait, le film, c'est un récit criminel avec un complot, une machination, une fausse piste surnaturelle avec des fantômes, une possession revenue du passé. Et en fait, le film, bon, on peut se dire, bah non, c'est un twist, c'est un criminel qui a mis en scène tout un spectacle pour perdre le personnage principal et pour qu'il lui serve de témoin, en fait, involontairement. Et en fait, il y a une scène quand même qui est très très étrange dans le film. C'est celle où, au début, lorsque Scotty, donc James Stewart, suit Madeleine Kim Novak, elle rentre dans un petit hôtel dont on apprend que c'est là où habitait l'ancêtre à laquelle elle s'identifierait. Et donc, on la voit par la fenêtre, donc dans un cadre, encore une fois, comme un tableau, on la voit par la fenêtre. Là, on est du côté de James Stewart. James Stewart la voit, donc il y a un raccord de regard. Il rentre dans l'hôtel, il va voir la réceptionniste et lui dit, mais vous avez une cliente. Elle dit, oui, elle s'appelle Carlota Valdez, donc du nom de l'ancêtre, etc. Elle dit, est-ce qu'elle est là en ce moment? Elle dit, non, elle n'est pas là. Elle dit, mais je viens de la voir rentrer. Et ils vont dans la chambre, elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'elle, à la fois, on la voit rentrer dans cette maison et en fait, elle n'y est pas. Donc quoi? C'est quoi un fantôme, une apparition?
Et
ça, c'est une... Alors bon, il n'y a pas d'explication, mais on peut il faut savoir que Hitchcock avait écrit un monologue un peu plus tard pour expliquer que, en fait, la réceptionniste de l'hôtel avait été soudoyée par Madeleine pour ne pas dire qu'elle était là.
D'accord.
Cela dit, ça changerait au fait que quand ils montent dans la chambre, elle a disparu et on ne sait pas par où elle est sortie. Il y a quand
Bien
même
sûr,
une
ouais.
disparition comme ça du personnage. Et là, c'est quelque chose de totalement surnaturel qui intervient dans une histoire rationnelle.
Oui, là, il ne va pas peut-être.
Mais, alors, c'est là, mais là, vous avez raison, mais il va, dès le début, il va trop loin. C'est-à-dire que... on parlait de l'interprétation du film, c'est-à-dire qu'est-ce que le film pouvait dire, ou qu'est-ce que c'est ce film. Le début, la poursuite sur le toit, on n'en a pas parlé, mais c'est très important.
Ouais,
il est
suspendu. Ne serait-ce que le premier plan,
il est suspendu dans le vide. C'est la scène traumatique, la scène où à la suite de laquelle il va souffrir de vertige, etc. Il est suspendu dans le vide, à une gouttière qui est en train de plier quand même. Il est impossible qu'il survive. Il est impossible. Enfin, je veux dire, après, on peut toujours être dans la vraisemblance ou pas. Mais,
et la scène d'après, il est sauvé.
Et la scène d'après, il est chez Midge, il est sauvé, il a une canne, donc il s'est blessé, mais il est vivant.
Ouais.
Et on peut se dire, mais tout le film, en fait, c'est le délire d'un homme qui tombe dans le vide. C'est comme un rêve, ça dure 3 secondes. Et donc, en fait, rien ne s'est passé de ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il a été suspendu à sa gouttière, il est tombé, et le temps de la chute, il a rêvé tout ça.
Et du coup, là, le dernier plan,
c'est
ce
fou,
serait
ça.
Quoi?
C'est génial.
Oui,
ça.
Mais le. C'est génial, ça. C'est génial, votre idée.
Et il y a une autre. Ça, c'est. Je suis pas.
Là, le dernier plan, ce serait quoi? Donc, il faudrait mettre en regard le premier et le dernier plan.
Pourquoi? Enfin, le... ben, tout est faux. À partir du moment où on est là, c'est tout est faux. Ben, enfin, évidemment, c'est une.
Non, mais c'est une interprétation.
C'est une interprétation un peu. Mais elle a été très sérieusement émise.
Mais par ailleurs,
il y a une
c'est
autre
vrai
qui a été émise. Il y a une autre qui a été émise, qui n'est pas très loin de celle-là, qui est que. Scotty n'a jamais rencontré Judy. C'est-à-dire qu'en fait, il est devenu fou, il est catatonique, il est dans l'asile, et tout ce qui se passe après est quelque chose qui n'a pas lieu. Le fait qu'il la retrouve, qu'il la refaçonne, etc. Bon, après, évidemment, il n'y a que le film et rien, et pas autre chose.
Bien sûr.
C'est-à-dire que, voilà,
il peut être tout ce qu'on veut.
Un film qui nous laisse penser qu'une partie de ce qu'il montre... n'est pas réel, c'est assez fascinant, quoi. Surtout quand c'est carrément une, enfin, deux heures, quoi, de film dont on se dit, mais rien de ce qu'on voit n'est réel. Et ça, c'est, là, on peut pas être, on retrouve l'expressionnisme, on peut pas être davantage dans un monde psychique que comme ça, quoi. C'est-à-dire vraiment dans un monde, dans le rêve, etc.
Mais c'est un truc du, je pense, qui tient au montage, en fait. Au montage du film qui est incroyable. Comme je disais, à la fin de cette séquence qu'on va d'ailleurs commenter, du baiser dans la chambre, qui est peut-être la scène la plus commentée, la plus culte, la plus citée dans des films, on a la musique, en tout cas, nous indique que c'est la fin du film. Il y a comme ça une sorte d'apothéose qui nous indique, à chaque fois qu'il y a un baiser, il y a une sorte d'apothéose qui nous indique que le film est terminé. Et ça arrive plusieurs fois, et le film recommence. Avec une scène souvent qui se passe chez Midge, enfin, où on retourne comme ça. Voilà.
Comme après cette scène du baiser, il y a une scène triviale, qui est la première scène de banalité conjugale entre Scotty et Judy, devenue Madeleine, enfin retransformée. Quoi.
Et d'ailleurs, il y a une scène entre... Bon, on ne va pas faire comme ça tout le film, mais quand Judy et Scotty se promènent dans un parc... Moi, c'est une scène que je n'avais pas vue, je l'ai vue au bout de la troisième fois. Pour dire à quel point on a l'impression qu'il y a des scènes qui viennent se surajouter à chaque fois, que Hitchcock continue à tourner des scènes de son film. Et Judy a un regard pour un couple qui s'embrasse allongé dans la pelouse. Et là, on comprend qu'ils ne seront jamais comme ça, qu'elle voudrait ça, qu'elle voudrait s'allonger dans la pelouse avec Scotty, et qu'elle ne l'aura jamais. Et là, on a un truc incroyablement pessimiste, fataliste, je pense, 10 secondes. Et bon, y a plusieurs scènes comme ça, dont la trivialité... conjugale dont vous me parlez après leur rencontre.
Oui, c'est ça, ils vont au restaurant, chérie, on va manger un bon steak, ils veulent l'embrasser, tu vas froisser ma robe. Ouais, tout d'un coup, et c'est intéressant parce qu'au même moment, il fait Vertigo, au moment où il réalise des films pour sa série télé, et ce sont des films qui, pour la plupart, parlent de crimes conjugaux. Quoi.
Oui, c'est ça.
L'enfer, c'est le couple, c'est l'enfer. Quoi, dans
mais j'ai l'impression que toute sa série, enfin tous les épisodes de la série qu'il a tourné, Alfred Hitchcock présente, montre un envers de et l'envers de sa filmographie, c'est-à-dire il n'y aura aucune femme fatale, c'est vraiment l'envers domestique de sa filmographie. C'est le mariage en fait, le mariage qu'il n'a jamais mis dans ses films. La conjugalité qui fait l'horreur de
l'homme
tous ses personnages
de
sa filmographie. On se souvient de cette fin de La main au collet où Cary Grant embrasse Grace Kelly, et il a ce regard de côté qui exactement le même que Stewart a dans Vertigo, ce regard fuyant en même temps qu'il embrasse Grace Kelly, qui signifie « Putain, je suis un peu dans la merde. je vais devoir me marier avec elle alors que j'ai pas envie. » Dans Vertigo, il signifie autre chose, mais c'est vraiment le regard de la conjugalité qui est en train de se former et qui est un peu inquiétante.
I'm not mad. There's someone within me, and she says I must die. Oh, Scotty, don't let me go.
I'm here. I've got you.
I'm so afraid.
Thank you.
les deux scènes d'apothéose. Mmh. La première, très expressionniste, avec les vêtements de Madeleine, très beaux, noir et blanc, comme ça, l'arbre. Mmh. Des races complètement déplumées, enfin, c'est incroyable. Et puis les vagues, enfin oui. Un truc d'artifice dans la nature.
C'est la rencontre, c'est-à-dire c'est le moment où la machination, parce qu'on, quand on a vu le film, on se rend compte que tout ça est une machination, c'est le moment où la machination continue et a atteint une étape préméditée. C'est celle où évidemment... la fausse Madeleine va séduire Scotty, donc James Stewart, et ça se, alors il y a cette promenade au milieu des séquoias, des arbres géants qui est très bizarre. Incroyable. On parle effectivement
de c'est vraiment le cœur archaïque du
cœur archaïque, et en même temps l'humain est écrasé, hein. On en parlera, mais il y a une dimension, la dimension métaphysique dans le film qui vient là de l'intérêt pour Hitchcock pour la peinture surréaliste, Dali et aussi sans doute Kiriko. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plans où les personnages sont beaucoup plus petits que les décors. Ils sont écrasés. Il fera un autre film comme ça avec cette idée-là, c'est Le Rideau déchiré, bien plus tard. En tout cas, Scotty est séduit, enfin, il tombe amoureux de Madeleine, ils s'embrassent, il y a la scène du baiser, et c'est une scène qui est attendue par le spectateur. Là, on voit qu'Hitchcock est il nous a menés par le bout du nez. Il y a la scène des séquoias, et puis la scène au bord de la mer, et là, ils s'embrassent, on est presque rassuré, il va la sauver, c'est ça l'idée, hein, parce qu'il va la sauver, ils s'embrassent. La musique symphonique de Bernard Herrmann enfle comme ça. On a les vagues, enfin une espèce d'image romantique, quoi. Enfin une espèce de cliché romantique absolu. Et là, évidemment, ce qui est totalement bouleversant, c'est que tout est faux. C'est-à-dire que quand on a vu le film, on se dit mais tout était faux. Tout était faux. La musique, le romantisme des vagues, etc. Après. Sur cette machination, il faut quand même se dire que la beauté du film, l'incertitude sur laquelle repose le film, c'est qu'on ne sait pas si à un moment donné, on se doute qu'à un moment donné, elle tombe amoureuse de lui.
Oui.
Et donc, sauf qu'on ne sait pas à quel moment. On ne sait pas à quel moment. En tout cas, là, on peut se dire que la machination fonctionne à plein.
Et ce qui est de très beau, moi, ce qui m'avait frappé, c'est quand on revoit le film, ça, je crois que c'est au bout de la quatrième fois quand je l'ai revu, c'est que le personnage de Madeleine ne cesse de dire « je dois monter en haut du clocher, je dois faire ça ». Et on peut le comprendre de deux façons différentes, comme quelque chose de sa mémoire archaïque qui l'appelle à faire, à accomplir le destin de Carlotta, et comme de la direction d'actrice. « Je dois faire ça parce que Elster me l'a dit ». Il y a les deux choses.
Sûr, ouais.
Mais là, tout ce qu'on disait sur la façon dont le film documente le rapport de Hitchcock à ses actrices est dit dans l'ambiguïté des dialogues, c'est-à-dire je dois faire ça, je dois faire ça, elle doit le faire puisqu'elle est
actrice.
Parce que Hitchcock lui a dit, Elster lui a dit, et puis Carlotta Valdés lui a dit.
Mais ce qui est, alors c'est vrai, il y a ça, et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que tout doit s'accomplir parce que, en fait, James Stewart passe son temps à vouloir lui montrer la réalité de ce dont elle rêve. Elle dit, mais cette fameuse mission, on n'a pas parlé de San Francisco, mais il a choisi San Francisco. Il a dit, bon, en France, il y a des clochers et des villages et des églises, il y a des clochers des églises et tout ça. Et à San Francisco, il y a des missions, il y a des missions catholiques. Et en fait, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles ils ont choisi de tourner le film à San Francisco. Ils voulaient le faire depuis longtemps. Mais il y a cette idée de ce lieu qui apparaît dans les fantasmes de Madeleine. Et en fait, à chaque fois, Scotty l'emmène dans des endroits pour lui dire « Mais non, regarde, c'est réel, c'est la réalité, regarde, elle existe. » Le fameux le chariot avec le chariot avec les chevaux, etc.
Ah oui.
L'écurie, regarde, ça existe, tu étais là, tu l'as forcément vu puisque ça existe. Donc, tu n'es pas possédé par une morte, quelqu'un qui est mort il y a 200 ans. Et
d'ailleurs, dans la topo, enfin moi, ce qui m'a frappé en voyant le film encore une fois, c'est que pour la plupart, enfin la première moitié du film est quasiment muette, et c'est en fait un road movie. C'est Stewart dans sa voiture qui roule dans San Francisco.
Bien sûr, bien sûr.
Pour beaucoup, le film c'est ça. Ouais. Sorte de road movie, enfin bon, un peu bizarre, mais, pas, mais il roule dans sa voiture, c'est tout, c'est silencieusement, et il regarde des silhouettes, voilà.
C'est un film de filature, en fait. C'est-à-dire
c'est très étonnant de faire un film aussi muet, quand même, sur 30 minutes, voire plus. Sûr.
Non, mais ça, le degré d'expérimentation dans le film, il passe aussi par la présence de ces longues séquences, de ces longues séquences qui n'ont pas une grande valeur dramatique ou narrative, disons plutôt. Il faut simplement figer l'obsession du personnage incarné par Scotty, et on va la figer par le fait qu'il va la suivre beaucoup plus longtemps que ne l'exigerait un film hollywoodien qui doit être monté plus rapidement, dans lequel il doit y avoir des explications, etc. On sait que Hitchcock a enlevé beaucoup de monologues intérieurs, en fait, pour d'où le côté très muet du film, en fait. Il y a vraiment, après les avoir tournés, il s'est dit il faut les enlever, quoi. Ça, c'est important, quoi.
Et donc ce dernier baiser en spirale, donc que De Palma a repris dans je sais plus quel film, j'ai oublié.
Le baiser qui est tournoyant, c'est dans Obsession.
Ouais, Obsession. Voilà. Oui. Et puis, avant ça, surtout l'apparition de Madeleine, qui, enfin là, c'est absolument incontournable, puisque Hitchcock en parle comme étant la scène fondamentale du film. Donc, je vais le citer. Donc, ça, c'est Hitchcock. C'est la scène préférée de Truffaut aussi. Mmh. Et Hitchcock répond « Tous les efforts de Stewart pour recréer la femme cinématographiquement sont montrés comme s'il cherchait à la déshabiller au lieu de la vêtir. Et la scène que je ressentais le plus, c'est lorsque la fille est revenue après s'être fait teindre en blond. James Stewart n'est pas complètement satisfait parce qu'elle n'a pas relevé ses cheveux en chignon. Cela veut dire qu'elle est presque nue, mais qu'elle refuse encore à enlever sa petite culotte. Alors James Stewart se montre suppliant et elle dit « D'accord, ça va. » Et elle retourne dans la salle de bain. James Stewart attend, il attend qu'elle revienne nue cette fois, prête pour l'amour. Donc là, on a juste un exemple de je sais pas comment dire, quoi, de...
C'est-à-dire que le désir
en fait,
de...
On le voit, fait... ça, mais c'est en lisant qu'on comprend, mais on l'a vu.
Ce que dit Hitchcock, en fait, c'est que le désir sexuel de son personnage, le désir, en gros, le désir sexuel... Normal, ça veut rien dire. Le désexuel classique, c'est on veut que l'autre enlève sa culotte, quoi. Enfin, sa petite culotte, quoi. On veut que l'autre
là,
soit nu pour le posséder, etc. Et le désir sexuel de son personnage, c'est qu'elle fasse un chignon, voilà, qu'elle porte un tailleur gris, très précisément, et qu'elle fasse le chignon exactement comme l'avait fait la femme qu'il aime, en fait, enfin qu'il aime toujours, en fait, etc. Et donc, ce que Hitchcock dit, un peu, c'est une boutade, en fait, quand il parle à Truffaut, mais en fait, il dit quelque chose de très vrai. Oui. Il dit, mais c'est ça la sexualité de mon héros, quoi. Il est impuissant. C'est pas l'acte sexuel qui l'intéresse. C'est l'objet partiel qui est le chignon.
Ça veut dire que forcément il est impuissant s'il aime les chignons.
Bien sûr qu'il est impuissant. C'est évident que James Stewart est un personnage est impuissant, un peu comme d'ailleurs on pouvait le soupçonner d'être dans Fenêtre sur cour. Son impuissance était même, disons, figurée par la jambe dans le plâtre. Mais il est impuissant et masochiste. C'est-à-dire que comme Norman Bates, Scotty. Donc, Norman Bates veut conserver la femme qu'il a follement aimée, c'est pour ça qu'il embaume sa mère. Mais oui, c'est évident. Enfin, c'est évident, ça me paraît comme ça, une espèce de, comme le téléfilm qui fera, qui s'appelle The Crystal Trail,
dont on reparlera. Puisque c'est aussi ça qui lie Psycho et Vertigo, c'est le motif de. Enfin, donc, peut-être sur le chignon, qu'est-ce qui vous dit pourquoi ce motif qui revient comme ça, ne serait-ce que dans le générique de Saul Bass?
Oui,
le chignon,
au-delà du chignon, c'est la spirale. C'est-à-dire que la forme du film, c'est la spirale. Mais la spirale,
c'est le vertige.
C'est faussement circulaire. C'est-à-dire que vous revenez à votre point de départ, sauf que vous ne revenez pas à votre point de départ. Vous faites un tour sur vous-même, mais vous n'êtes pas au même endroit. Mmh. C'est ce que raconte le film. Ce que voudrait Scotty, c'est revenir au passé. C'est reconstruire le passé. C'est remodeler Madeleine. Réinventer Madeleine, retrouver le même. Sauf que, voilà, c'est impossible, le temps, l'irréversible, ça fait partie du temps. Donc, on ne revient jamais c'est essentiel. Et donc, on ne revient jamais à son point de départ. Et donc, la spirale, c'est ça, c'est l'idée d'un retour qui, en fait, n'en est pas un. Et qui, en fait, est aussi une progression, parce que, voilà, le temps, on ne refait jamais deux fois la même chose, quoi.
Et donc, Psycho, elle est où, cette spirale?
Ben dans Psychose, elle est dans la... Psychose. Dans Psychose, elle est dans... Alors là, c'est d'une certaine façon, c'est la spirale qui va aspirer comme ça le héros vers le néant, quoi. C'est même c'est l'œil mort de Janet Leigh, autour de quoi tourne la caméra. C'est le siphon, enfin le trou d'évacuation des eaux. Et puis c'est le chignon de dans lequel va se perdre. C'est le chignon qui va aspirer Scotty, ce chignon qui est sur la photo, sur le tableau de Carlotta Valdez, l'ancêtre. L'ancêtre qui est censé posséder Madeleine, puis elle a le même chignon, et ce chignon, elle est vue de dos, elle a un plan de dos, il aspire James Stewart dans un vortex comme ça qui va le faire disparaître. Donc cette figure comme ça du gouffre, quoi, c'est une figure du gouffre qui vous aspire. Du fait que, en fait, Vertigo, ça parle du fait, et ça, on est au cœur même non seulement du cinéma d'Hitchcock, mais peut-être du cinéma, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on regarde qu'on voit.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Voilà. C'est-à-dire que le regard pétrifie. Le regard construit son objet. Mais le regard ne garantit pas qu'on voit la vérité. Et Vertigo est l'histoire d'un homme qui va construire un objet qui n'est pas un objet réel. Alors évidemment,
un monde,
tout
même,
ça, ça voire un monde, mais là, un objet, je veux dire, bon, on va parler de Madeleine, c'est-à-dire de la femme qu'il aime. C'est-à-dire cette femme qu'il aime, vous l'avez dit, elle n'a jamais existé. Mais c'est son regard qui l'a construit. Et j'ai beaucoup aimé le dernier film en date de Brian De Palma, qui s'appelle Passion, qui est très exactement un film là-dessus. C'est-à-dire que, sur l'idée que, voilà, on est tous des méduses, le regard pétrifie. On regarde quelque chose, et à partir du moment où on regarde quelque chose, on ne le voit plus. Et c'est vraiment ça le sujet de Vertigo, et c'est sans doute le sujet profond du cinéma d'Hitchcock. Le regard empêche de voir. Alors c'est bizarre, c'est paradoxal, et d'une certaine façon, on ne regarde que derrière sa propre rétine. C'est-à-dire qu'on ne regarde que son cerveau, en fait. Alors, évidemment, c'est une idée un peu abstraite, non, mais je pense qu'elle s'incarne... Elle s'incarne, mais magnifiquement, dans Vertigo. Voilà. Regarder empêche de voir.
Merci beaucoup, Jean-François Roger.
Merci.
Je vais pleurer.